Bon, c'est une paracha un peu particulière. La première partie, on a déjà lu ça quand on a lu Parshat Para, dans les lectures qu'on a faites autour de Pourim avant Pessah. La paracha s'appelle Parashat Para, parce on parle ici de Para Adouma, on parle de la vache rousse, la vache rouge. Donc, je précise tout de suite que on ne sait pas exactement de quel rouge il s'agit. Quand la Torah dit Adom, Adama, Adouma, on ne sait pas du tout, vous comprenez bien qu'il y a toutes sortes, il y a tout un spectre de rouge, et on n'a aucune idée de quel rouge il s'agit ici dans la paracha en question. Ce qui fait que même si on venait à trouver aujourd'hui une vache dont la robe soit entièrement rousse ou rouge, ben on ne pourrait pas être sûr que c'est de cette vache-là qu'on parle dans la paracha. Donc ici, on va nous décrire un processus de purification de quelqu'un qui est entré en contact, en gros, on va dire avec un mort. C'est une purification particulière qui va s'étendre sur 7 jours. Il y a d'autres, c'est parce que ça correspond à ce qu'on appelle Toumat Met, l'impureté consécutive au fait qu'on est entré en contact avec un mort. Alors le contact, il y a trois types de contact au sens large du terme. C'est ou bien on touche vraiment le mort, ou on transporte le mort sans le toucher. On transporte sur un lit, par exemple, ou bien on se trouve sous le même toit que le mort. Le toit en question, c'est peut-être le feuillage d'un arbre. C'est une des raisons pour lesquelles, en général, il n'y a pas d'arbre dans les cimetières juifs, parce que on craint qu'on soit sous le feuillage d'un arbre et qu'on se trouve donc sous le même feuillage qu'une tombe. Donc ces trois niveaux de contact au sens large du terme avec un mort, elles entraînent ce qu'on appelle Toumat Met. Et c'est maintenant il y a d'autres Toumot. Cette Touma-là, on va voir, c'est un processus long et compliqué. Il y a d'autres Toumot qui sont moins forte, si on peut parler comme ça, et qui ne nécessite pas un processus aussi long, mais où il y a peut-être un processus qui se déroule aussi dans le temps, mais il n'est pas aussi sévère, ou alors il se déroule sur un laps de temps beaucoup plus court. On va voir ça dans le détail. Et il se passe quelque chose dans la paracha. Il y a un passouk pour que vous alliez au chapitre 20, chapitre Kaf. Au deuxième verset, le passouk dit Vayeshev ha'am de Kadesh, le peuple s'est installé à un endroit qui s'appelle Kadesh. Vatamot Sham Myriam. Vatikaver Sham. Myriam, la prophétesse Myriam, la sœur de Moshe et d'Aaron, est morte à cet endroit-là. Vatikaver Sham, elle a été enterrée là-bas. Alors, il y a quelque chose qui est très choquant, c'est qu'il n'y a pas de passouk qui dise que le peuple a pleuré Myriam. Avec tout ce qu'elle a fait pour le peuple n'a pas pleuré Myriam. C'est-à-dire que le peuple a pleuré Aaron, il a pleuré Moshe, Myriam, non, il n'y a rien qui est dit. Bon, c'est clair, c'est choquant. Parce que, et du coup, on peut voir, et c'est une continuité, parce que immédiatement après, le passouk dit, Velo haya maim la'eda. Et du coup, le peuple n'avait pas d'eau, n'avait pas d'eau à boire. Vaikalu al Moshe ve al Aaron. Ils se sont attroupés contre Moshe et Aaron, en fait. Vayarev ha'am im Moshe. Et le peuple s'est rebellé contre Moshe, Vayomru les morts, et ils lui ont dit, Lou gavanu bigvar chenu lifnei Hashem, si seulement on était mort comme nos frères devant Hashem, lama, mais pourquoi avetem et kal Hashem? Pourquoi avez-vous amené la communauté d'Hachem, El Hamidbar Hazeh, dans ce désert-là, Lamout Sham, pour y mourir, Anachnu Uvirei, nous et nos troupeaux, nous et nos bêtes, Velama, et pourquoi, Elitunu Mimitsraim, pourquoi est-ce que vous nous avez fait monter d'Égypte? La vie autant, autant nous amener, elle a ma coma rasée vers ce lieu, ce mauvais lieu. L'homme comme Zera, un endroit qu'on ne peut pas ensemencer, au Téna, Vegefen, Verimon. Il n'y a pas de figues, il n'y a pas de vignes, il n'y a pas de grenades. Ou même, on peut même pas, il n'y a pas à boire, pas d'eau à boire. Et donc, le peuple a été assez virulent. Vous entendez les paroles extrêmement dures qui sont dites. Et Vayavo, Moshe, Aaron, Mipnea, Kahal, El Petachou, El Moed. Et donc, Passouk a l'air de dire que Moshe et Aaron se sont quasiment réfugiés dans le tabernacle. Vaiplou, Al Pnehem. Ils se sont prosternés. Vayera kvod Hashem aleihem. Et la gloire divine s'est manifestée, le fameux nuage s'est manifesté sur eux. Et du coup, Hashem a dit à Moshe, Kach et amateh, prends le bâton. C'est le fameux bâton qu'il avait en Égypte, le fameux bâton qu'il avait dans la main quand il a fendu la mer. Prends le bâton. Ve'akel et ta'eda, et rassemble le peuple, Ata ve'Aaron achicha, toi et ton frère Aaron, ve'dibartem el ha'sela le'eneihem, et vous parlerez au rocher aux yeux des Bnei Israël. Ve'natan memav, et le rocher y donnera son eau. Et tu leur extrairas, tu extrairas de l'eau de ce rocher pour eux, pour les Bnei Israël. Vishkita et Aïda et Biram, tu abreuveras la communauté et leur bête. Alors Moshe a fait ce qu'Hachem lui a dit. Vaikar Moshe et Amate, Milifne Hachem, Kacher Tsivaou, comme Hachem le lui avait prescrit. Vayakilu Moshe ve Aaron et Akahal, Alpene Hasela. Et Moshe et Aaron ont rassemblé le Kahal devant le rocher. Et Moshe s'est mis en colère. Vayomer Lahem, il leur a dit, Shimuna Hamorim, écoutez, vous, rebelles, Amina Sela Azeh, Notzilachem Maim, est-ce qu'on va vous extraire de l'eau de ce rocher? Vayarem Moshe et Yado. Moshe a levé la main dans laquelle il y avait le bâton. Vayach et Asela, il a frappé le rocher. Bemateu avec le bâton, avec son bâton. Pamaim deux fois. Vayetsu Maim Rabim. Et ça a produit beaucoup d'eau. Vatesh Ta'eda ou Ve'iram. Et il a abreuvé l'assemblée et les troupeaux. Donc, ça a l'air que, bon, finalement, Moshe a fait ce qu'Hachem lui a dit. Et, bon, un petit peu différemment parce que Hachem lui avait dit tout. Vous parlerez au rocher. Et on ne voit pas que Moshe ait parlé au rocher, mais on voit qu'il l'a frappé, mais que le rocher, il a donné de l'eau, et voilà, les Bnei Israël étaient contents, ils ont reçu de l'eau. Vayomer Hachem el Moshe ve el Aaron. Hachem dit à Moshe et à Aaron, et vous remarquez que c'est pas marqué Vaydaber, Vayomer. En fait, c'est Vayomer, c'est une parole douce. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit doucement, visiblement, Ya'an lo'eman tembil hagdisheni, parce que vous ne m'avez pas fait confiance de me sanctifier le'eine bnei Israël, aux yeux des bnei Israël. Vous avez fait quelque chose, plus exactement, vous n'avez pas fait quelque chose que je vous avais demandé de faire. La reine, pour cette raison, L'otaviu et takalazé, vous n'amènerez pas cette assemblée-là, el haaretz, asher, vers la terre, asher natatilahem, que je leur ai donné. C'est-à-dire, ici, Moshe et Aaron sont condamnés à ne pas entrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Pas vu. On fait un truc clair en même temps. Et le texte termine en disant, Hema, elle, on parle de ces Meriva, ce sont des eaux de la discorde, de la dispute, Asher Ravu Bnei Israël, cette dispute que les Bnei Israël ont eue et Moshe et Hachem, pardon, que les Bnei Israël ont eue avec Hachem, va Kadesh Bam, et Hachem a été sanctifié par elle. A priori, ce sont par les eaux. Donc ça va jouer un rôle, on va regarder longuement ce texte d'un peu plus près, mais vous voyez, on a ici une chaîne. Les Bnei Israël, Myriam meurt, les Bnei Israël n'ont pas fait des espédimes comme il le fallait pour Myriam. Du coup, l'eau qui était assurée justement pour le clan d'Israël dans le désert jusqu'à présent grâce à Myriam. Et donc, l'effet de Myriam est annulé, elle n'est plus là. Et comme ils n'ont rien fait pour perpétuer son souvenir ou pour l'honorer, etc., alors il n'y a pas d'eau. Et les Bnei Israël reprennent les mauvaises habitudes de se révolter, etc. Ils disent pas qu'ils veulent retourner en Égypte, etc., mais ils disent des choses assez terribles. Du coup, quelque chose arrive qui n'aurait pas dû se produire, c'est que Moshe se met en colère, et Moshe en colère, il a un problème qui n'apparaît pas du tout dans le texte, et qu'on va voir par la suite, c'est que le puits de Myriam, ce qu'on appelle Be'er Myriam, c'est-à-dire la source d'eau qui accompagnait en permanence le clan d'Israël dans le désert, cette source d'eau mobile qui bougeait avec le clan d'Israël, c'était en fait un rocher. Et quand le rocher en question n'avait plus la fonction de produire de l'eau, puisque Myriam n'était plus là, alors ce rocher est retourné et il s'est réintégré dans l'ensemble des rochers. Et quand Moshe est venu pour parler c'est à ce rocher-là qu'il fallait qu'il parle. C'est lui le préposé à l'eau du clan d'Israël. Moshe s'est trompé. Et il a parlé à un autre rocher. Et un autre rocher, lui, un autre rocher, il répond pas à la parole. Mais visiblement, vous vous souvenez que il y a longtemps, parce que ici maintenant on est dans l'année 40, on est dans la dernière année de Moshe. Il y a longtemps, au début de la trajectoire des Bnei Israël, ils avaient déjà eu une situation où ils n'avaient pas d'eau. Et Hachem avait ordonné à Moshe de frapper un rocher. Il avait frappé le rocher avait donné de l'eau. Du coup, quand Moshe a vu que le rocher ne répondait pas à la parole, il l'a frappé. Donc il a frappé ce rocher-là, qui n'était pas le rocher auquel il avait parlé, mais qui n'était pas le rocher auquel il devait parler. Mais comme semble-t-il, quand Moshe frappe avec son bâton, semble-t-il, n'importe quel rocher donnera de l'eau. Il a donné de l'eau, même en abondance. Donc les Bnei Israël, après leur révolte, etc., eux, ils sont contents, tout s'est bien passé. Ils ont demandé de l'eau, ils ont eu de l'eau. Pour Moshe, chez Moshe et Aaron, parce qu'ils étaient là ensemble. Pour Moshe, bon, on ne voit pas que Moshe et considérait que qu'il y avait eu un ratage. Bon, le rocher n'a pas parlé, n'a pas répondu à la parole, donc il l'a frappé, mais finalement il a pu abreuver tout le monde. Et donc, à la limite, ils ont l'impression que quand Hachem leur dit que ils ont fauté, ils ont l'air, bon, ils s'y attendaient pas, et la sanction est très forte. Alors, vous savez bien que ça fait longtemps que Moshe a appris. Hachem avait décidé qu'il n'entrerait pas en Israël. C'est depuis le moment où Hachem lui a parlé pour qu'il aille délivrer les Bnei Israël et où lui n'a pas tout de suite accepté. Hachem l'a puni et lui a dit qu'il n'entrerait pas en Israël. Mais Moshe a pensé que dans toute l'histoire, dans ces 40 ans, dans tout ce temps-là, souvent Hachem avait dit qu'il allait détruire le clan d'Israël, etc. Il a toujours fini par pardonner. Et Moshe a pensé qu'il lui pardonnait aussi à lui. Mais ça n'a pas été le cas. On va voir quelle est vraiment la faute. Maintenant, il y a une autre idée qui, elle, est une autre. Enfin, l'autre idée, c'est pas quelque chose qui est à voir avec cet événement en tant que tel directement, mais qui a les mêmes conséquences. Ça veut dire, sur la question de savoir pourquoi Moshe ne devait pas entrer en Eretz Israël, alors on a déjà vu, mais je rappelle pour mémoire, la chose suivante. Quand les Bnei Israël, au moment du premier Beth Amikdash, la destruction du premier Beth Amikdash, le Beth Amikdash, il a été détruit. Mais en réalité, dans cette situation-là, ça n'était pas que les Bnei Israël n'ont pas fait ce qu'il fallait dans le Beth Amikdash. Les korbanot, etc., tout ça a été fait tout à fait conforme aux règles. Dans la Megillah de Echa, il y a un passouk qui dit que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont tué Cohen ve Navi. Ils ont tué le Cohen Gadol et ils ont tué le Navi. Ils ont tué le Cohen Gadol qui était en service à ce moment-là, et ils ont tué le prophète Yeshaya. Le prophète Isaïe a été tué à ce moment-là. Et on a déjà dit que si on imagine un clan Israël qui tue Cohen Venavi, tuer le Cohen, c'est le Cohen Gadol, c'est tuer la Avoda. Tuer le Navi, c'est tuer la parole d'Hachem. Au sens où la Avoda ne se fera plus, comme, et l'étude non plus se fera plus. En ce cas-là, le clan d'Israël n'a plus de raison d'être. Sans la Avoda et sans l'étude de la Torah, le clan d'Israël n'a plus de raison d'être. Et donc, quand on dit qu'ils ont tué Cohen ve Navi, en fait, ça veut dire qu'il mérite la mort. Donc à ce moment-là, le clan d'Israël était passible de mort. Mais, ça c'est les psoukim de Echa, mais la colère divine qui aurait dû donc les détruire, cette colère divine, elle est tombée. Au lieu de tomber sur le clan d'Israël, elle est tombée sur le Beth Amikdash. L'expression qui est utilisée là-bas, c'est C'est tombé à la Haetzim vers à la Avanim. C'est tombé sur les bois et sur les pierres. Donc on voit que la destruction du Beth Amikdash, elle joue le rôle de paratonnerre. La foudre doit tomber. Normalement, elle va tomber sur les Bnei Israël qui la méritent. Mais Hachem, il fait du chesed avec les Bnei Israël, il leur donne encore une chance. Alors il va falloir payer pour cette chance, il va y avoir destruction du Beth Amikdash, donc, et aussi exil, etc., en Babel et tout. Mais le clan Israël n'est pas complètement détruit. Donc pour cela, il faut que, au lieu de détruire le clan Israël, il faut détruire le Beth Amikdash. Et pour que le Beth Amikdash soit détruit, il faut qu'il soit destructible. Il faut qu'il puisse être détruit. En théorie, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse détruire la résidence d'Hachem. Ça n'a pas tellement de sens. Comment est-ce que les hommes pourraient détruire la résidence d'Hachem? Alors en fait, on ne peut pas la détruire comme telle, mais on peut lui enlever son caractère de résidence d'Hachem. La conduite des Bnei Israël peut devenir telle que le Beth Amikdash devienne une espèce de coquille vide. Ce que disent les Neviim, les prophètes, c'est que Hachem, ils parlent au nom d'Hachem et ils disent au Bnei Israël que Hachem n'a rien à faire des korbanot que vous le faites, il n'a rien à faire de vos Shabbatot, de vos Chagim, etc. Si, quand vous sortez du Beth Amikdash, vous conduisez comme des crapules. C'est-à-dire, si vous prenez le Beth Amikdash comme un temple, c'est-à-dire un endroit où on vient payer sa cotisation, en quelque sorte. Voilà, j'ai payé ma cotisation, maintenant c'est un blanc-seing pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. En général, c'est comme ça que les peuples traitent leurs idoles. Il y a toujours un rapport avec l'idole qui est que c'est un marché qu'on fait. Voilà, je te donne ça et en retour, tu me protèges ou tu me permets, etc. Le Beth Amikdash, il ne doit pas être vu comme cela. Hachem ne veut pas que ce soit comme ça. Et donc, il faut que on puisse le détruire. Or, il y a deux personnages dans l'histoire juive dont les constructions sont indestructibles. Les deux personnages, c'est Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Et c'est pour ça que Hachem ne voulait pas que Moshe Rabbeinu entre en Eretz Israël, parce que s'il était, lui, entré en Eretz Israël, on aurait pu construire le Beth Amikdash, ou le Beth Amikdash aurait été parachuté, etc. Bref. En tout cas, il serait devenu indestructible. Et si, malheureusement, c'était possible, même quand Moshe est là, si les Bnei Israël se conduisent mal et qu'ils en sont à être disqualifiés complètement, alors Hachem va devoir les détruire eux, puisque le Beth Amikdash ne jouera pas le rôle de paratonnerre puisqu'il est indestructible. Et de la même manière, c'est David HaMelech qui a eu l'idée de construire le Beth Amikdash, mais Hachem ne l'a pas laissé. Alors on donne toutes sortes de raisons, mais cette raison-là, on pourrait dire que c'est une raison en quelque sorte. Finalement, c'est pour le clan Israël. D'accord? Il faut montrer que Akadosh Baruch Hu accepte que sa maison soit réputée destructible et éventuellement détruite pour sauver le clan d'Israël. Et donc là, on a une chaîne, comme si finalement, on pourrait se demander, si on met bout à bout ce qu'on a dit, si au fond, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu est condamné à ne pas entrer en Eretz Israël, là, si on remonte à la raison première, si on peut parler comme ça, la raison première, c'est que on n'a pas été maspide, Myriam, comme il fallait. D'accord? On n'a pas exprimé la reconnaissance que le clan d'Israël devait à Myriam. C'est très surprenant. J'ai pas vu d'explication, s'il en existe. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné le kavod qu'elle a priori, elle n'a jamais rien fait d'autre que d'aider le clan d'Israël. Le problème de le problème de cette ce manque de reconnaissance, d'ingratitude. Comme vous savez, c'est, à part le fait que Adam et Chava ont mangé du fruit qu'il ne fallait pas manger, mais c'est la première Avera. Il est dit d'Adam Arishon qu'il est Kafui Tova, qu'il est ingrat. Il est ingrat quand Hachem lui fait les reproches. Il dit à Hachem, ben finalement, c'est un peu de ta faute, si j'ai fauté, parce que tu m'as donné une femme et donc j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Si tu m'avais pas donné une femme, je n'aurais pas fauté. Donc c'est comme si, de nouveau, une faute d'ingratitude entraîne un fiasco gigantesque, quelque part. Voilà. Donc, je vais revenir sur la première partie. Pardon, pardon? Pas bien compris. Oui, le début, j'ai compris. Ah. Ah, c'est aussi un problème de. On peut aussi classer dans l'ingratitude, vous avez raison. Sauf que peut-être les gens, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait se dire que Hachem, il n'a pas besoin de ma gratitude, il n'a pas besoin, il n'a besoin de rien, donc peut-être j'ai pas besoin de l'exprimer. Alors que Myriam, Moshe, etc., c'est des êtres humains, ils ont besoin de cette gratitude. Mais bon, c'est pas vrai, mais on pourrait faire ce faux raisonnement consisterait à dire que Hachem n'ayant besoin de rien, il a entre autres pas besoin de l'expression de ma gratitude. Mais bon, c'est pas une très bonne excuse dans la mesure où l'expression de la gratitude, c'est pas tellement pour l'autre, c'est pour moi. C'est moi qui dois exprimer ma gratitude, même si l'autre il en a rien de cette expression. Parce que souvent, l'autre, il n'a fait, dans son esprit en tout cas, il n'a fait que de faire ce qu'il pensait qu'il fallait faire. Alors, on revient sur le début de la partie.
Concernant Myriam, il y a quand même peut-être quelque chose qui fait que elle est tellement grande qu'on a du mal à la percevoir, parce que finalement elle est à l'origine de la conception même de Moshe Rabbeinu, puisque
Oui, bien sûr.
elle a rabiboché ses parents pour qu'ils puissent le concevoir. Ensuite, elle va sauver Moshe Rabbeinu d'une mort certaine. Ensuite, elle va nourrir, enfin hydrater tout le clan d'Israël. Elle est peut-être, c'est peut-être un poids énorme pour elle de pouvoir, enfin. Pardon, pour le clan d'Israël de reconnaître à ce point l'importance de Myriam.
Oui, peut-être, peut-être, mais nos Hachamim n'ont pas cherché tellement d'excuses, enfin, ou d'explications. Justement, ce qui est frappant, c'est qu'il y a, comme il n'y a pas de verset, alors il n'y a en général pas de, il n'y a pas de grande explication sur cette ingratitude. Enfin, Aaron était aussi très grand, et Moshe aussi. Ils ont quand même, les Bnei Israël ont quand même exprimé quelque chose. Ils ont quand même un peu pleuré quand Aaron et Moshe ont disparu. Là, même s'ils n'ont pas fait des grands discours, ils auraient au moins pu pleurer un peu, quoi.
Oui, donc vous voulez dire que c'est à peu près la même attitude par rapport à Aaron et Moshe Rabbeinu.
Oui, mais là-bas, ils ont pleuré.
Et pas pour Myriam.
Et pas pour Myriam, c'est ça le problème. S'ils avaient pleuré pour personne, alors bon, on
D'accord.
pourrait dire, effectivement, comme vous dites, c'était trop grand pour qu'on puisse même dire quoi que ce soit. Malgré tout, quand les gens, même s'ils sont très grands, quand ils disparaissent, on se permet, on comprend très bien qu'on dit des choses qui sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait dire pour de si grands personnages. Mais enfin, on les dit quand même.
Et c'est nécessaire pour tout le monde.
Pardon?
C'est nécessaire pour tout le monde, c'est-à-dire
Oui.
pour
Oui.
ceux qui disent et ceux qui entendent.
Oui, bien sûr. Alors, on va regarder un peu
Merci.
le...
Excusez-moi, Rav, mais aussi de son vivant, ils n'ont rien dit à Myriam. Ils en ont
Pardon?
bénéficié, même du vivant de Myriam. Myriam, les Bnei Israël ont bénéficié de ses bienfaits, mais ils n'ont rien témoigné, même de son vivant.
Non, mais ça, si vous voulez, ça peut être que dans le vie du vivant, la Torah ne l'a pas remarqué, quoi.
Et d'autre part,
Mais
pour Sarah aussi.
au moment de la mort, on aurait dû marquer
Oui,
le coup, on fait des
mais Sarah,
espadim.
il me semble, enfin, je n'ai pas retenu, que pour Sarah, quand elle est morte, on nous dit que Abraham l'a pleurée, mais on ne dit rien des autres. Est-ce que pour les femmes, on manifeste moins? Sans faire de
Mais
féminisme, hein,
vous voyez bien que Avram il n'a pas
Abraham,
montré,
oui?
il n'a pas fait ça, et Yaakov, sur la mort de sa mère, on dit pas grand-chose, mais parce que quelque part il n'a pas vraiment su. Il y a toute une discussion. Est-ce qu'il le savait? Ce qu'il a su, c'est la mort de la nourrice qui était venu avec Rivka, mais qui en même temps il y avait la mort de Rivka, mais c'est pas clair du tout que Yaakov l'ait su. Il l'a pris après, plus tard. Et Yitzhak, il a longuement pleuré sa mère, bon, c'est C'est pas Yitzhak a disparu avant. Peut-être il a même disparu avant son épouse, avant Rivka. OK. Donc, je voulais voir avec vous le Maharal au début de la paracha. Le Maharal dans Gourarié, il est évidemment sur... Le Maharal, c'est un commentaire sur Rashi, quoi. Alors, sur le tout début de la paracha, sur Zot Chukat HaTorah, bon, alors vous savez bien que ce qui est surprenant, c'est que cette paracha qui parle de la procédure de purification avec un mort, au lieu de dire que c'est la chouka de la para, ou de la para aduma, on dit que c'est la chouka de la Torah. Alors qu'est-ce que c'est que cette universalisation de cette vache rousse quelque part, comme si ce dont on parle, ça concerne toute la Torah, alors qu'on ne parle que des halakhot de la vache rousse ici. Alors, Rashi commence par expliquer un peu. Rashi dit, le fiché à Satan veut omot haolam, monin et Israël, l'omar, le Satan et les goyim, en fait, il force les Bnei Israël en les mettant un peu dans l'embarras, en leur disant, mais ma mitzvah azot, c'est quoi cette mitzvah? Ma tam yeshba. Donc, quel est le sens de cette mitzvah? Le fichach, katav ba chuka. C'est pour ça que cette mitzvah, elle est présentée comme étant une chuka. Chuka, normalement, ce sont les mitzvot dont on ne connaît pas. Il ne faut peut-être pas dire, donc, ils n'ont pas de raison, mais en tout cas, nous, on n'en connaît pas la raison. Alors, en vérité, ça s'appelle Xeraim Ilfanaï. Hachem répond à ça, en quelque sorte. C'est une chuka, ça veut dire, c'est un décret que j'ai pris. En lecha reshut la. Tu n'as pas le droit de critiquer ou ça ne fait pas partie d'un objet sur lequel tu peux réfléchir, c'est hors de ta portée. Alors ici, on voit en passant quelque chose d'important qui est que la phrase de Rachid, écoutez, quand vous l'écoutez, vous demandez si elle est complètement équilibrée, parce que qu'est-ce qu'elle dit, la phrase? Elle dit que le Satan et les Oumot HaOlam mettent les Bnei Israël dans l'embarras en leur disant, mais quoi, cette mitzvah, ça a l'air de rien, ou des trucs un peu magiques, ou etc. Il n'y a pas de tam. Alors la réponse, c'est quoi? C'est une chouka? Tu n'as pas le droit de... Tu n'as pas le droit d'être meharrer, tu n'as pas le droit de la critiquer, de réfléchir, quelle est la raison, etc. La question, c'était, c'est les goyim qui nous disent cela, et Hachem répond, enfin, la réponse qu'on donne, c'est que Hachem a dit que c'était une chouka, que, voilà, ça fait pas partie des choses sur lesquelles on va réfléchir, disons. Ça enlève pas les questions et on s'attendrait à ce qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut leur répondre quand ils nous agressent comme ça. Alors, ce qu'on voit ici, en tout cas, c'est que dans Pirkei Avot, on dit Dam hachetashiv l'apikores. C'est-à-dire, sache ce que tu réponds à l'hérétique. Et le Rav Volbeit, vous avez toujours remarqué que il n'est pas dit qu'on doive lui répondre, mais on doit savoir ce qu'il faudrait lui répondre. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que leur questionnement ne nous laisse pas le bec dans l'eau, c'est-à-dire ne nous laisse pas dans la situation où nous ne savons pas quoi répondre. Je ne vais pas répondre, je ne veux pas obligatoirement discuter avec toi. Mais moi, en moi-même, je sais ce qu'il faut répondre à ces arguments. C'est pour ça que la réponse, elle est, il n'y a pas à répondre, parce que c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui est un peu hors du monde, si on peut parler comme ça, hors de la rationalité. Et c'est tout, et donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ça fait pas, il n'y a pas de nécessité de leur répondre, mais c'est important par contre que ça ne laisse pas de traces chez nous. J'avais déjà raconté, mais peut-être rafraîchir la mémoire, cette histoire que mon maître m'a racontée de son grand-père, Ephraim de Brisk. Ephraim était, il est entré dans un train, il est monté dans un train, et Ephraim, il se promenait avec une petite casquette sur la tête, on savait, il pouvait tout très facilement passer inaperçu. Bon, il s'est assis, et dans le wagon, il y avait des Juifs qui étaient là, et à un moment donné, il y a un curé qui est monté et qui a commencé à entreprendre les Juifs. Il leur a dit, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en l'acrobate, etc. Alors ils ont dit, nos maîtres qui vivaient à cette époque-là, ils ne nous ont pas dit que c'était quelqu'un d'important. Alors le curé, il a dit, mais vos maîtres ne se trompent jamais. Alors, c'est les Juifs un peu simples, ils disent non, nos maîtres ne se trompent pas. Alors, le curé a dit, mais pourtant, Rabbi Akiva, il s'est trompé. Comme vous savez, probablement, Rabbi Akiva, il a soutenu la révolte de Bar Korba. Parce qu'il a pensé à un moment donné que Bar Korba pourrait être le Mashiach. Après, Bar Korba, il a. Tout ça, c'était possible si Bar Korba avait continué de prendre conseil chez Rabbi Akiva. Il était un bon chef de guerre, mais il n'était pas quelqu'un qui pouvait diriger le peuple. Donc, il aurait dû, comme il le faisait au départ, il aurait dû prendre conseil pour diriger le peuple auprès du grand maître de la génération qui était Rabbi Akiva. Il ne l'a pas fait et, bon, comme on sait, ça a donné une tragédie, la tragédie de Béthar. Et donc le goy, il a dit, mais Rabbi Akiva, il s'est trompé. Il croyait que Bar Korba serait le Messie. Les Juifs, ils ne savaient pas quoi répondre. Alors après, il s'est dit que il ne voulait pas que les Juifs restent sans réponse à une question posée par un curé. Et donc il s'est mêlé à la conversation. Il a demandé au curé, mais d'où tu sais que Rabbi Akiva s'est trompé? Alors le curé, il a répondu, mais Bar Korba, il a été tué. Voilà, donc il avait retourné la situation. Donc c'est normalement on va pas discuter, mais il l'a pas fait pour répondre au goy, il l'a fait pour que les Bnei Israël ne restent pas sans avoir de réponse à opposer à ce que disait le goy. Donc le Rashi rapporte cette histoire-là que les goïms et le Satan attaque en quelque sorte. Là-dessus, le gourari et le maral de Prague, il dit la chose suivante. Il dit, Midivrei Rabotenu, on voit dans la Gemara, dans Maseret Yoma, Shelo Hayalo Lichtov Chukat HaTorah, que la Gemara, elle dit, le texte n'aurait pas dû dire Chukat HaTorah, Afalgav de Matsanu Bimkomot Arbe, Lachon Chuka, bien qu'on trouve à plusieurs endroits le mot Chuka, comme dans Chukat HaPesach, ou bien Ushmartem et Chukotai uVetorotai, Bearbe Mekomot, on trouve le mot Chuka voulant dire ici, c'est la loi spécifique du Korban Pessah, la loi spécifique de mes chukim, mes mishpatim, mes torot, etc. Mais malgré tout, on trouve jamais chuka avec chukat à Torah, sauf ici. שבכל מקום שנאמר חוקה, באה המילה על המצווה. Parce que toujours, le mot חוקה est toujours associé avec une mitzvah particulière, Pessah, ou alors d'autres, Torah Tachatat, etc. Et la raison en est qui, à mitzvot, ben, si à ta mitzvah, pour faire une mitzvah, on n'a pas besoin de connaître la raison de la mitzvah. Rak asiyata bilvad, on a besoin de connaître seulement la façon d'accomplir la mitzvah. Ve'en tolea mitzvah rak asiyata bilvad. Dans la mitzvah, on te demande essentiellement de faire les choses. Enboshum limud. La mitzvah, elle vient pas t'enseigner quelque chose. Rak asiya greida, sheoseh mitzvah. C'est là que le faire, l'agir dans le cadre de la mitzvah. Izafalgav de lo yada shum tam, shum davar. Même si on sait pas du tout le pourquoi des choses. La mitzvah sera faite parfaitement, même si je ne sais pas pourquoi je la fais. Aval Torah, mais dans le limud de la Torah, lo shayach lashon chuka. On ne peut pas parler du mot chuka comme décrivant le processus de la Torah. Ki batorah shayach limud. Parce que dans la Torah, on ne peut pas séparer. Dans la Torah, c'est un objet d'étude. Vimken lama katav zot chukat Torah. Et donc, le Maharal, il a reformé la question, pourquoi avoir écrit chukat Torah? C'est pas une mitzvah où l'essentiel c'est de faire certains gestes. C'est pas le fait d'ouvrir le rouleau de la Torah pour lire, ou bien d'ouvrir un livre, ou bien d'écouter un cours. C'est pas ça la Torah, la mitzvah de Torah. C'est le limoud lui-même. Alors il y a plusieurs façons d'accéder à le d'apprendre la Torah, c'est-à-dire en réfléchissant sur un texte ou en écoutant un maître ou de d'accord, ou bien en lisant un sefer, donc d'un maître. Mais c'est pas comme dans la mitzvah de n'importe quelle mitzvah où le geste est, voilà, il est suffisant. Si tu manges le korban pessah, même sans savoir pourquoi tu le manges, ça marche aussi. Les explications qu'on donne sur pessah, shanu ochlim al shumma, ça fait partie du récit de la Haggadah. Et pas de la mitzvah de manger le korban. C'est la raison pour laquelle on a répondu, le fils à Satan, de Mataolam, etc. Le kar katav batora la shon chukat, l'inmod, lecha, shav batora yechuka. La Torah ici, elle vient nous enseigner que même dans Torah, il y aurait quelque chose qui est de l'ordre de la chukka. Ve'al ya'arer achar ha-Torah shel Parah Aduma. Ça vient dire ici, dans Parah Aduma, t'as pas besoin de savoir pourquoi. La Parah Aduma, elle va faire son travail, elle va purifier, même si on ne sait pas pourquoi on l'a fait. En vérité, il est marqué un peu plus bas dans Parshat Matot. Zot chukat ha-Torah, asher tziva Hashem et Moshe. Et là-bas, on parle des kélim de Midian, les ustensiles qu'ils ont récupérés quand ils ont fait la guerre contre Midian. Pourquoi? Mipnei she'Elazar lo ba lilmod lelamed Torah l'Israël. C'est parce que Elazar qui s'occupe de ça là-bas, Elazar le fils de d'Aaron, il vient pas enseigner la Torah au peuple d'Israël ici. Raklorot ala maaseh shaya lefisha. Là-bas, il vient dire exactement comment on doit se comporter par rapport à ces kélim. On a des kélim qui sont pas kachers. Comment on va pouvoir les utiliser? Ou mipnei shaya l'inyan hora'a, ou l'inyan hora'a ein tsarichtam, comme il s'agissait de donner des règles. Et quand on donne des règles, on n'a pas besoin de donner des explications. Le kar katav chukat ha-Torah, là-bas, dans Matot. Klomar, kar yaseh. Ça veut dire, c'est comme ça qu'il faudra faire. Ve'en tsarich tam, mais c'est pas du tout un tam. C'est pas une raison. Inami, on peut aussi dire que là-bas, ce sont les paroles d'Elazar. Ubevadai etzel Elazar shayach chuka. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand ce sont les hommes qui parlent, quand c'est Elazar qui parle, ou bien quand c'est Moshe qui parle, mais c'est pas Moshe en tant que représentant de tout Israël, mais Moshe qui parle à son nom en son nom personnel, dans ce cas-là, on peut utiliser Chukat ha-Torah. Ce qu'on dit pas, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, quand c'est Moshe qui parle au nom du clan d'Israël. Donc le problème, c'est que il y a un Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a enseigné Parah Aduma à Moshe Rabbeinu. Quand on dit que personne ne le connaît, etc., Moshe Rabbeinu, il savait. Mais comme on a déjà dit qu'il y a des choses qui ont été enseignées à Moshe Rabbeinu, mais qui ne lui ont pas été enseignés pour qu'il les transmette. C'est pour ça que chaque fois que Hachem donne un enseignement à Moshe Rabbeinu pour qu'il le transmette, c'est toujours marqué Vaidaber Hachem el Moshe, les morts. Les morts, c'est-à-dire à transmettre. La Torah, elle est donnée à Moshe Rabbeinu que pour l'Ebné Israël. La preuve, Moshe Rabbeinu, dans les années où l'Ebné Israël ne méritait pas, c'est-à-dire dans les années de pérégrination dans le désert, Moshe Rabbeinu n'avait pas de prophétie. N'avait pas de prophétie. Hachem ne lui a pas parlé. Ici, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas tout Israël. Bon, alors, il y a des. C'est pas complètement évident, parce qu'il y a des autres endroits où, effectivement, dans le Maral lui-même, il dit un petit peu autrement. Mais bon, on va pas entrer là-dedans maintenant. Alors, on a dit Zot Chukat Torah, oui. Si vous voulez, certains disent que un choc, c'est la preuve ou c'est le test. Quand on fait les mitzvot qui nous paraissent normales, qui paraissent tout à fait compréhensibles, etc., finalement, on ne sait pas du tout si on les fait parce qu'on les comprend ou si on les fait parce qu'Hachem les a prescrites. De le fait qu'il y ait des chukim où on ne comprend rien et on fait quelque chose, quand même, ça prouve qu'on est capable de, on fait les choses pour Hachem et pour être en conforme à la volonté d'Hachem et pas pour, et pas parce qu'on les comprend. Donc, il y a des, c'est sûr que on, quand on fait une mitzvah, on peut vraiment éventuellement ressentir, tiens, j'ai fait quelque chose d'intéressant, d'important. Maintenant, c'est pas toujours évident, en quelque sorte, que ce soit ça la fonction de la mitzvah. Mais peut-être c'est quelque chose qu'on a en plus. Alors, cette para aduma, dans le passouk, c'est marqué Vikuelecha Faraduma Tmima, c'est une bête parfaite, sans défaut, enfin, elle est complète. Cher Enbamoum, elle n'a pas de défaut. Asher lo ala aléa ol. C'est aussi une bête sur laquelle on n'a pas mis de joug. On n'a jamais fait travailler. Mais nos maîtres vont dire, pas simplement un joug, mais si quelqu'un, je ne sais pas, il amène sa vache, y compris pour la cérémonie de, enfin, la procédure de Para Aduma, et comme il fait un peu chaud, il pose sa veste sur la vache. C'est fini, la vache est le plus, elle n'est plus cachère. Elle n'est plus cachère comme Para Aduma. Il faut pas du tout qu'on ait, on les fait travailler. Alors, il y a quand même une certaine difficulté qui vient de ce que comme Rachid l'a dit, c'est il faut comprendre. Zerahi milfanai. C'est un décret que j'ai pris. Alors, cette idée que c'est un décret que j'ai pris, c'est aussi quelque chose d'étonnant, parce que toutes les mitzvot sont des xérotes. Et ne viens pas me dire que quand on dit Xerarin Fanaï, ça veut dire que elle n'a pas de. C'est une expression pour dire qu'elle n'a pas de raison. Et rationnellement, je la comprends pas. Parce que, en tout cas, pour Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, il dit clairement que c'est faux. Lui, il dit que quand on dit que c'est une Xéra, c'est un décret, c'est une façon de dire que ça n'est pas du Rachamim. Ce n'est pas par miséricorde, c'est pas par sens, par empathie, etc. Même la tzedaka ou le maaser ne sont pas non plus du rachamim, mais c'est du din. Le Rambam dit, c'est pour améliorer le donateur, ça n'est pas pour le bien du récepteur de la tzedaka. Et donc, pour Rambam, c'est vrai dans toutes les mitzvot, y compris justement les exemples de tzedaka ou maaser, où on pourrait vraiment dire que c'est fait pour aider le pauvre, pour aider le lévi, etc. Pas du tout. En fait, il y a un passouk dans le Navi Yeshaya qui dit que Velze habite el ani unche ruach, qui dit que HaKadosh Baruch Hu, on dit d'ailleurs très clairement, dans les brachot, on dit que HaKadosh Baruch Hu, il est Ozer Dalim. Hachem aide les pauvres. On ne veut pas dire que Hachem n'aide pas les pauvres, qu'Hachem n'est pas sensible à la pauvreté. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il n'y a pas lieu de faire une mitzvah pour ça, d'en faire une mitzvah. HaKadosh Baruch Hu, il agit par rachamim, mais l'homme auquel il prescrit d'agir, c'est pas pour réveiller en lui le rachamim. C'est aussi comme ça d'ailleurs que le Maharal ici dit que le Ramban, il dit aussi un peu comme moi, dit le Maharal, sauf c'est un petit peu différent. Parce que le Ramban dit que au tout début, la mitzvah était pour le récepteur, pour l'homme. Alors que pour le Maharal, la mitzvah, c'est la caractéristique d'Hachem qui agit comme un roi. Le roi, il veut montrer son pouvoir et il prend des décrets. Il se trouve, par ailleurs, que les décrets divins, contrairement aux décrets d'un roi de chair et de sang, ces décrets divins sont pour nous, ils sont bons pour nous. Mais leur caractéristique, c'est pas le fait qu'ils sont bons pour nous. Leur caractéristique, c'est des décrets divins, c'est-à-dire Hachem comme Melech qui donne des lois. Vous vous souvenez, on avait dit que quand les Bnei Israël ont passé à Mara, là où l'eau était amère, là-bas, Kadosh Baruch Hu leur a donné une dizaine de mitzvot. Il leur a donné la mitzvah de Kibboud Avahem, la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de faire des dinim, des tribunaux, etc. Et il leur a aussi donné la mitzvah de Parah Aduma. Et donc, la question qui vient, c'est, on comprend bien que il leur a donné ces mitzvot de Kibboud Av va'em, de Shabbat, d'énigmes, etc., pour qu'ils s'habituent aux mitzvot. Mais dans la paradouma, on ne peut pas dire que c'est pour qu'ils s'habituent aux mitzvot. D'abord parce qu'on pouvait pas, comment, on pouvait rien en faire, vu que dans paradouma, il y a nécessité d'avoir le Mishkan. Et donc, c'est pas réalisable. Donc, on pouvait pas s'entraîner à ça. Donc, il faut dire que para, la raison pour laquelle il leur a donné para, c'est pour, oui, commence l'étude de la Torah. Para n'est qu'un, quand on n'a pas c'est typique de la mitzvah qu'on ne peut pas réaliser parce que les conditions ne sont pas réalisées, ne sont pas satisfaites. Donc, il n'y a pas de kiyum d'accomplissement de la mitzvah. Simplement, c'est, il s'entraîne en quelque sorte à une kabbalat Torah à travers le limoud. Donc, il y a des mitzvot qui ont été donnés pour qu'ils s'entraînent à faire les mitzvot. La para, elle a été donnée pour qu'ils s'entraînent à accepter la Torah en tant que limoud, qu'étude. Mais ça veut aussi dire, à partir de para, qu'on apprend que nous n'accomplissons pas les mitzvot d'Hachem parce que nous comprenons par notre intelligence, mais simplement, il y a une mitzvah qui, en fait, qui n'est qu'une gxéra, ça n'est qu'un problème d'obéissance à Hachem, quoi, quelque part. C'est tout. Donc, voilà quelque chose sur Paradoma. Je voulais voir avec vous encore un peu de Meshech Chochma sur, justement, sur la faute de Memeriva. Meshech Chochma, sur le passouk qui dit que il y a eu beaucoup d'eau qui a été donnée par le fameux rocher sur lequel Moshe Rabbeinu a frappé deux fois. Là-dessus, le Meshech Chochma, il dit que la bracha, qui est ce qu'Hachem veut, en fait, et que les choses sont données avec, sont données par Hachem avec générosité, en quelque sorte, avec un sourire, si on peut parler comme ça. Et ça vient dire ici, la bracha, elle n'est pas, son importance, c'est pas la grandeur, l'impact, la grandeur mesurable en quelque sorte de la bracha. C'est évidemment la qualité, c'est en qualité. Une bracha, c'est en qualité. C'est qualitatif, c'est pas quantitatif. C'est-à-dire que, par exemple, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus élevé de montrer qu'avec un peu de nourriture, on peut être rassasié. C'est plus que de montrer que on peut avoir énormément de réserves de nourriture. Vous vous souvenez, je crois qu'on en avait parlé quand on a parlé de la Shemitah, dans le fameux passouk, la Torah dit, et si tu dis, mais qu'est-ce qu'on va manger si on s'aime pas, etc. Alors Hachem a répondu, j'enverrai ma bénédiction et la sixième année va produire des quantités astronomiques qui vont tenir jusqu'à la neuvième, qui sera le produit de ce qu'on aura pu faire pendant la huitième. Au ce moment-là, on aura de nouveau pu labourer, semer, etc. Et on avait dit que ce qui était intéressant, c'est que cette bénédiction, on n'en parle que si tu poses la question. Mais qu'à la limite, le mieux, ce serait de pas poser la question. C'est ça qu'il s'agit, c'est-à-dire ne pas poser la question. Ça veut dire que a priori, Hachem va faire en sorte que, avec le peu de nourriture qu'on aura, Hachem n'a pas besoin d'envoyer une bracha sous la forme de on va récolter un tas fabuleusement grand de céréales la sixième année. Non. Mais ce qu'on va récolter dans la sixième année, ce peu qu'on va récolter, on va avoir une récolte normale, mais quand on va la consommer avec quelques grammes de nourriture, on va être rassasié. Et donc, il y en aura pour toutes les années. Et ça, c'est beaucoup. C'est-à-dire que la bracha, elle est qualitative et pas quantitative. Donc, la bracha, elle n'est quantitative que si on est soucieux, si on ne fait pas vraiment complètement confiance à Hachem et qu'on demanderait, mais alors, qu'est-ce qu'on va manger montre-nous quelque part, rassure-nous. Ok, si tu as besoin d'être rassuré, alors je vais t'envoyer une bracha qui est quantitative, mais c'est pas la meilleure. Le mieux, c'est quand c'est qualitatif. Et le Meshech Chochma, il ramène un enseignement de Rabbi Yosef Albo. Albo, c'est un des rabbanim espagnols à l'époque de l'Inquisition. J'ai entendu une fois que tous les rabbins d'Espagne ont accepté quasiment de se convertir, sauf deux. Un des deux, c'est Albo, et l'autre, je ne me rappelle pas de son nom. Alors, Albo, il a écrit un Sefer, et lui, par exemple, il avait déjà, voilà, pas déjà, lui, il a établi, quand le Rambam dit qu'il y a 13 Ikarim, 13 points fondamentaux, lui, il disait qu'il y en avait quatre. Donc, il écrit tout un ouvrage dans lequel il va expliquer comment ces quatre points fondamentaux suffisent. Et là-bas, Albo, il parle de la faute de Memriva, et il dit, ou al shelo kidesh Moshe Shemo. La faute, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas sanctifié le nom d'Hachem. Et alors, regardez ce qu'il dit. Il dit que Kasher Ra'a ki ha'am tsamel ha'mayim, que Moshe Rabbeinu, quand il a vu que le peuple avait soif, Ishkazé, un homme comme lui, il aurait été convenable, il aurait été attendu en quelque sorte de sa part, le Kadesh Shmo Itbarach, de sanctifier le nom d'Hachem, comment? La sot me'atzmo lotzimaim misela. D'obliger le rocher, enfin y compris de frapper le rocher avec son bâton, sans attendre qu'Hachem lui en donne l'ordre. Vehachem yaaser etzon tzadik, veetzat avadav yashlim. Il y a un passage qui dit qu'Hachem, il fait la volonté du tzadik. Et est-ce que ses serviteurs demandent? Il le fait. Bezek var dibrou achachamim. Bon, j'ai pas les livres sous la main, dit-il. Ou behemet, raou il est bonen. Mais le Meshech Chochma dit effectivement, c'est un sujet intéressant. Il vaut la peine de réfléchir à ça. Kilomatsa nous le Moshe, parce que quand on y regarde d'un peu plus près, il se trouve que Moshe Rabbeinu, on trouve jamais chez Yahseh Davar ve'inyan blitz sivui Hashem kodem, sans qu'Hashem l'ait ordonné auparavant. Bchol ha-moftim ve'ha-plaot she'asa, tout ce qu'il a fait de miraculeux comme la manne, le slave, le be'er, kriyat yamsouf, ma she'matzanu b'shar ha-nevi'im she'asu me'atzmam, on trouve chez les autres prophètes qu'ils ont fait des choses. Vachem Midbarach, et Kim Divrayem. Et Hachem a fait ce qu'ils ont demandé. Par exemple, le premier, c'est Yoshua. Il a arrêté la course du soleil. D'accord? Il a dit, il a ordonné au soleil de s'arrêter, et Hachem a fait que le soleil s'est arrêté. Mais il a pas, c'était pas un ordre d'Hachem. Eliaou Ber HaKarmel, quand Eliaou il a mis au défi les prophètes du Baal et qu'il a dit à Hachem, là maintenant il faut que tu fasses tomber du feu sur le corban que j'ai préparé, parce que il lui avait rien demandé, Hachem ne lui avait pas demandé, et je moelle avec la pluie, etc. Le seul cas où on voit que Moshe fait quelque chose sans qu'Hachem le lui ait ordonné, c'est l'histoire de Korach, quand il demande que la terre s'ouvre et les avale. Vous remarquez évidemment que Albo n'a pas compté du tout, enfin, ou même le Meshech Chochma non plus, il ne compte pas le fait que Moshe Rabbeinu a brisé les tables. Alors Davahu, mais ce qui est important pour lui, c'est l'histoire de Korach. Là-bas, Moshe il a demandé quelque chose à Hachem. Ben, il a annoncé quelque chose. Et après, à la limite, si Hachem le fait pas, il est coincé, quoi. Nirebeze, qui navi acher. Alors, regardez, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit un autre prophète, Shasagato. Un autre prophète dont la vision n'est pas archi-claire. Et même sa prophétie, elle lui arrive quand il a l'air d'être un peu fou, quoi. Shehu Mufshat Achomer, il est obligé de se séparer du matériel, ou Meshulal Lachushim. Il maîtrise plus, il est tombé en syncope, etc. Il maîtrise plus l'essence. Bezé, dans cette situation-là, alors, Aïn be Aïn nirait, on voit très clairement qu'ilo Elokimu. On voit bien que le prophète n'est pas un dieu. On voit simplement que il a des forces de la prophétie qui est d'origine divine. Ça lui vient, c'est Hachem Elokei Ruchot qui le lui envoie. Mais chez Moshe, c'est différent. Parce que Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui parle, Moshe Rabbeinu, il est debout, il est complètement maître de son corps. Il parle avec Hachem comme on parle avec son collègue. Comme Hachem lui-même le dit, PLP Adaberbo. On parle bouche à bouche, quoi. Ilouaya Oseken, si Moshe avait fait quelque chose comme cela, s'il avait, par exemple, frappé le rocher et produit de l'eau, Az Amru Alav, Kiou Be'etzem Koach Mashpia, on va dire que c'est quelqu'un qui domine la nature, il change à sa guise, il change les lois de la nature, et ils vont en faire une divinité, ils vont le diviniser et ils vont le servir. La reine Mipnesh kal la taout. Comme on pouvait facilement se tromper et diviniser Moshe, Loasachum Nesupele, il n'a jamais fait quoi que ce soit de miraculeux, quoi, par lui-même, Mikodem, sans qu'Hachem le lui ait ordonné auparavant. Achare sivlot lunot, après qu'il ait subi toutes les injures, etc., par le peuple, à ce moment-là, il voit où le peuple savait bien, tout le monde savait qu'il y a Ish Moshe, l'homme Moshe, comme ils disent. Et donc là, dans l'histoire de Korach, il pouvait le faire. Pourquoi? Ki kol ha'eda kulam kedoshim, avait dit Korach. On est tous au même niveau. Tout le monde est saint. Ka'am ke Kohen, le peuple comme un Kohen, ka'katan, ka'gadol, les petits, les grands, azikrishu, ma'alat Moshe, v'chashdu, bedvarim chutim. Ils ont nié le haut niveau de Moshe et on l'a accusé de toutes sortes de basses choses. Ils ont mis un safek pour savoir est-ce que ce n'était pas lui qui avait décidé à qui il allait donner la keuna, etc. À qui l'élevim et tout. Là, il n'y avait aucun risque. C'est pour ça qu'il s'est permis d'ouvrir la terre, enfin de demander que la terre s'ouvre. Mais maintenant, là, dans cette situation, une fois que il a montré que Hachem lui obéissait en quelque sorte, Hachem faisait ce qu'il a demandé, puisque la terre s'est ouverte. À ce moment-là, les gens vont dire Al kvodo chash, al ma she'en ma'im la'eda lo yachush. Donc, si sur son kavod, il est sensible, alors il ne va pas être sensible sur le fait qu'il n'y a pas d'eau pour la communauté. Ou alors, quand il ne fait pas les choses par lui-même, c'est-à-dire pour faire quelque chose pour eux, Omer, la sela ten memecha, ayach il l'achève. Quand il ne l'a pas fait, Dans ce cas-là, il aurait dû le faire et il n'y avait aucun risque. C'est un chidou Hachem. La reine Amar, l'otaviou. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, vous n'allez pas, toi, Aaron, vous n'allez pas amener les bénis Israël en Eretz Israël. Ça veut dire, Ken nirelil yachev divrei, Rabbi Yosef Albo, pardon? Il dit, voilà, c'est comme ça que j'explique ce que pensait Rabbi Yosef Albo, qui disait qu'il aurait dû prendre l'initiative de frapper le rocher ou de lui parler, peu importe, sans attendre qu'Hachem le lui ordonne, puisque il n'y avait aucune. Comme les Bnei Israël étaient en train de dire du mal de lui, ils n'allaient pas le diviniser à ce moment-là. Pardon? Comme dans le Korah, comme ils ont là-bas, il a pu aussi se permettre de le dire, parce que là aussi, il mettait en doute Bichlal, son honnêteté, etc. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant. C'est quelque chose qu'on n'attend pas obligatoirement.
Merci.